Eh bien, je remercie Joël de m'avoir rappelé il y a 3 jours que je lui avais promis de faire la synthèse des différentes vidéos. Je me suis dit une fois de plus que j'aurais bien fait de réfléchir avant de toujours dire oui, parce que quand j'ai eu visionné les 5 vidéos, je me suis dit, mais comment vais-je arriver à recadrer tout ça? Et en même temps, répondre à son attente qui était le RE dans le DD, de quoi parlons-nous? Je vous présente ce que j'ai tenté de faire. On verra bien dans 10 minutes, puisque en plus je n'ai que 10 minutes, hein, si j'ai réussi à être clair au travers de ces projets. En tout cas, avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous dire ceci hors de mon exposé. C'est que on entend souvent qu'il faudrait quand même que ça bouge dans les écoles, qu'il serait quand même temps que des projets se mettent en place. Mais je pense que ces personnes-là, qui n'ont pas tort, surtout, quand on voit le dynamisme, l'enthousiasme, la richesse éducative de ces 5 projets, qui ne sont que 5 parmi tant d'autres, je pense qu'on doit quand même aussi être satisfait. En tout cas, moi, je suis extrêmement heureux de voir ce genre d'initiative. Je sais qu'elles sont multiples dans nos écoles. Je sais qu'on peut encore faire mieux. Cette journée doit y contribuer. Mais de toute façon, on est quand même loin d'avoir un monde enseignant qui ne se préoccupe pas de l'éducation relative à l'environnement et au développement durable quand on voit tout cela. Alors, comment essayer d'arriver à mettre en commun ce que ces projets ont? Ben, je suppose que comme vous, moi j'ai souvent besoin d'une méthodologie de travail. J'ai besoin d'une grille de lecture. Ma grille de lecture dans le domaine environnemental, elle a peu évolué, je le reconnais, depuis quelques années. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ne seront pas étonnés de revoir ce que j'appelle ma patate. Mais c'est un outil de travail certainement très perfectible, mais qui en général me sert beaucoup. Quand j'essaie, moi, dans le cadre de mon travail, de remettre un avis ou de prendre position dans le domaine environnemental, je me sers souvent de cet outil-ci. Avec 6 grands champs, 6 axes d'investigation, 6 domaines que vous avez ici à l'écran. L'environnement a bien sûr une composante écologique, mais il y a bien longtemps que l'environnement n'est plus uniquement que écologie. Il y a bien 30 ans que l'éducation relative à l'environnement, c'est autre chose que des activités nature. Dans les 5 montages que vous avez vus, on ne peut pas dire que les activités vraiment nature, biologie, soient vraiment les activités les plus courantes dans les montages que vous avez vus. N'empêche, l'environnement, c'est quand même aussi une histoire de climat, de sol, d'atmosphère, etc. À côté de cette composante écologique, vous avez une composante économique qu'on ne peut évidemment pas négliger. C'est toute la problématique des circuits de production, l'exploitation raisonnée des ressources. Une composante éthique qui apparaît très souvent dans les différents montages, c'est toute la relation je-nous, ou moi-les autres, les relations nord-sud, et je pourrais encore y mettre beaucoup de choses, mais le temps m'est compté. Avec 3 autres composantes, une composante culturelle, tout ce qui est du domaine patrimonial, folklorique, culturel, les traditions. Ben, personne ne peut nier l'importance de ces éléments-là dans une démarche environnementale. Il y a une composante sociale qui est essentielle en ce qui concerne l'alimentation, la sécurité, les loisirs, l'éducation. Et bien sûr, tout ça, tout cet édifice est aussi tributaire et dépendant d'une composante politique que je situerai à 2 niveaux, hein, et on y viendra dans quelques instants. Il faut voir d'abord l'aspect politique dans son aspect noble et le voir de manière globale, c'est-à-dire que la politique, c'est autant les politiques au niveau des décrets, hein, des arrêtés d'application, au niveau des entités fédérées, mais la politique, ça se joue aussi et ça se vit tous les jours au niveau d'une école. Des décisions se prennent tous les jours dans les écoles, ce sont des décisions que l'on peut qualifier de politiques au sens où moi je l'entends du moins. Si à partir de cette grille, J'essaie maintenant de voir un peu et de recadrer, mais rapidement, en étant certainement incomplet. En dégageant de chaque projet quelques mots-clés. Évidemment, c'est un choix que je fais, donc c'est subjectif. Vous auriez très bien pu prendre d'autres mots-clés que les miens. Si je prends le projet du collège Saint-Joseph à Chimay, qui est un projet basé sur les énergies renouvelables, pour moi, l'idée clé, c'est consommer moins, autrement et de manière moins polluante, par toute une série d'énergies alternatives. C'est, sur le plan politique scolaire, un projet extrêmement porteur, puisque vous avez vu le chef d'établissement expliquant que les modifications sont telles que le projet d'établissement en a été modifié. Le projet d'établissement, c'est bien la politique scolaire. Si j'essaie de cadrer très sommairement ce premier projet dans mes différents cadrans, voilà où je situe, moi, mais vous le situeriez peut-être ailleurs, le projet du collège de Chimay dans cette grille d'analyse. Le projet de l'école communale l'envole. Alimentation saine et respectueuse de l'environnement, très 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 axé sur la redécouverte des produits locaux, réapprendre ou apprendre aux enfants à manger sainement. Au niveau des valeurs éducatives, vous avez entendu la titulaire dire « Notre projet cette année, c'est manger heureux et bouger libre ». Si je replace le projet dans la grille, voilà où moi je le situe. Une composante culturelle, la redécouverte de produits locaux liés aux activités très ancrées dans l'environnement local, une dynamique sociale importante puisque c'est vraiment une éducation à la santé, à l'alimentation saine, et comparer l'alimentation saine à base de produits locaux ou à l'alimentation plus classique, plus générale, plus commerciale via les différents circuits de production. Au niveau des projets soutenus par l'IBGE, j'ai regroupé ici deux projets. Le projet des adolescents, je pense que c'est plutôt des élèves du troisième degré au niveau du Parlement des jeunes, et j'ai couplé ça avec le projet Barao de l'école Notre-Dame-des-Champs à Uccle. Voilà pour moi ce que je retiens dans ces projets. Barao, c'est bien faire apprécier l'eau du robinet, et le Parlement des jeunes, c'est bien là vraiment une éducation à la citoyenneté avec une sensibilisation. Vouloir changer les choses, changer de comportement et surtout agir. J'ai entendu dans la salle quelques collègues un peu rire lorsqu'un étudiant a dit « on arrête de se vautrer sur sa chaise ». Hein, c'est vraiment l'idée, allez, on se bouge. Voilà où je situe dans ma grille d'analyse ces projets. Les deux autres écoles soutenues par l'IBGE en matière d'alimentation, c'est surtout lutter contre le gaspillage alimentaire et manger plus sainement. On a parlé de repas végétariens. Les valeurs sont très proches des deux projets précédents. C'est agir et changer ses habitudes. Les projets se situent là. Et j'ai gardé le cinquième projet de l'ACEN, qui pour moi est une approche sensorielle d'un aliment nouveau, en l'occurrence la betterave rouge dans cette classe de maternelle. Manger plus sainement et de manière plus respectueuse de l'environnement, c'est bien lié à respecter les aliments liés aux saisons. Et au niveau des valeurs véhiculées par le projet, on est bien dans de la sensibilisation, dans du changement comportemental sur le plan alimentaire. Très sommairement, en essayant de ne pas être simpliste, voilà où les cinq projets se situent dans cette grille d'analyse. Si au niveau des thématiques et des objectifs, vous avez un éventail relativement large, je retiens, moi, quatre choses de cette grille complète, après les complétées par le biais des cinq projets. Vous voyez, et ça ne doit pas nous étonner, que le cadran qui apparaît systématiquement est le cadran, la composante sociale. Ce sont des projets liés à l'enseignement, ce sont des projets d'éducation, d'éducation à la santé, d'éducation à l'alimentation, à une éducation citoyenne. Il est donc normal que le cadran de la composante sociale soit pratiquement rempli de chacun des projets. La composante économique est une composante qui est très présente dans les projets. C'est surtout au travers des projets sur l'alimentation où vous avez toute la problématique des circuits de production. La composante éthique est aussi importante. Regardez que la composante écologique est finalement peu présente, ce qui veut bien dire que l'éducation relative à l'environnement déborde très largement des seuls problèmes écologiques, et ça c'est fondamental, et c'est quelque chose qui a dû s'installer progressivement dans notre système éducatif. Voilà pour moi les enseignements que je retiens de ces projets. Sur le plan des valeurs éducatives, l'éducation relative à l'environnement est un moyen extraordinaire d'éduquer les jeunes. Tous les projets sont des projets où on sensibilise, où on modifie des comportements et surtout des projets où on agit. On ne se contente pas de faire des constats et des projets. Non, on passe à l'acte. Dans tous les projets, vous avez vu les élèves en action. Au travers de ce prisme, qui est le mien, voilà pour moi ce qu'est une clarification de l'éducation relative à l'environnement. Je suis bien conscient que d'autres dans la salle y ajouteraient certainement d'autres choses, que pour certains d'entre vous, ça n'est plus de l'éducation relative à l'environnement, mais on est déjà dans une politique plus de développement durable. Je vous dirais que ces querelles-là m'importent peu quand je vois les choses sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons là pour aider, soutenir, encourager les enseignants et pas nous lancer dans des débats qui sont des débats de chambres, de spécialistes, mais qui sont quand même relativement éloignés des choses quotidiennes. L'éducation relative à l'environnement, bien des personnes, bien des auteurs ont essayé de la définir. J'en retiens une parce que j'ai essayé de la faire coller à notre décret mission et qu'elle m'arrange bien. L'éducation relative à l'environnement vise à sensibiliser l'élève à son milieu de vie, proche ou éloigné, et à lui faire acquérir des connaissances. Ben, pour les enseignants dans la salle, on est bien dans nos savoirs qu'on trouve dans tous nos référentiels et dans tous nos programmes, à développer chez lui des habiletés manuelles et intellectuelles, dans notre jargon, on est au niveau de nos savoir-faire, ainsi que des attitudes, dans le décret mission, c'est ce qu'on appelle les savoir-être, qui lui permettront d'agir positivement sur son environnement, et c'est ce qu'on trouve dans nos textes légaux sous l'étiquette savoir-agir. Et donc cette définition aussi, moi, elle me convient bien. L'ensemble de la phrase, si je veux la résumer en un mot, ça s'appelle compétence. Alors, puisque Joël m'avait quand même demandé d'essayer de clarifier ERE et DD, je me suis dit, je me sens revenir quelques années en arrière. Et vous avez bien entendu les enseignants dans les montages. Hein. Certains ont parlé d'éducation relative à l'environnement, d'autres ont parlé de développement durable. On voit bien que chez les enseignants, ces deux expressions sont au moins complémentaires, si pas pour certains synonymes. Le sont-elles, d'abord, et est-ce que finalement ça a de l'intérêt de vraiment les distinguer? Est-ce qu'on doit séparer l'éducation relative à l'environnement du développement durable, ou bien est-ce que c'est éducation relative à l'environnement et éducation au développement durable? Ou bien est-ce que c'est ce que certains font souvent pour essayer de faire le consensus mou, éducation relative à l'environnement en vue d'un développement durable, et bien d'autres ont encore trouvé d'autres formules. Je vous dirais, mais vous l'avez compris, que pour moi ça n'a guère d'intérêt, si j'essaie simplement de reprendre ce qui fait plus ou moins consensus, le développement durable, c'est essayer de concilier trois mondes, le monde économique, le monde social, et souvent l'environnement, le mot environnement n'apparaît plus, mais apparaît le mot ressources. C'est-à-dire, et ça ce n'est quand même pas neutre, l'environnement n'est plus pris au sens vraiment environnemental, protection de l'environnement, mais l'environnement est pris comme étant une ressource que l'on doit essayer d'utiliser de manière relativement raisonnable. Ça c'est quand même, mais puisque c'est ce qu'on m'avait demandé, c'est quand même une nuance. Ce n'est pas environnement qui apparaît comme tel, c'est ressources. Une des définitions ou une des premières définitions du développement durable est celle-ci. Ben, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Puisque le temps m'est compté, vous avez aussi bien compris que pour moi ça n'était pas fondamental. J'ai essayé comme toujours de relier la théorie à la pratique. Si on prend la problématique de la consommation d'électricité, que ce soit en Belgique ou dans le monde, on peut quand même essayer de penser que lorsque un citoyen installe chez lui des panneaux voltaïques, il est plus, selon les auteurs et selon les recherches qui ont été faites, il est plus dans une logique de développement durable, où on concilie l'énergie en tant que ressource, le monde économique et l'homme. Derrière les panneaux voltaïques, tous ceux qui en installent chez eux, des études notamment en Allemagne ont été faites à ce sujet-là, ce ne sont pas toujours en priorité des visées environnementales qui sont à l'origine de leur choix. Le fait d'avoir des primes, le fait d'avoir des certificats verts, fait que certaines personnes installent des panneaux voltaïques en se disant ben, « je vais simplement diminuer ma facture d'énergie ». Point. Et je ne critique pas ces personnes-là. Quand on est dans une logique de production d'énergie, même si c'est de l'énergie verte, on est dans une politique plus de développement durable. À l'opposé, mais ce n'est pas contradictoire pour autant, quand vous remplacez vos lampes par des lampes basse tension ou maintenant de plus en plus par des LED, vous n'êtes plus dans une politique de production, vous êtes dans une politique de réduction. Ça, pour certains, c'est plus un comportement environnemental au sens noble et moins un comportement de développement durable. C'est sur cette conclusion-là que je voulais terminer. Ces deux mondes ne sont pas incompatibles, mais je pense qu'ils sont relativement éloignés des préoccupations premières des enseignants qui sont demain. Comment je vais faire? Avec quels besoins? Quelle aide j'aurai de ma direction? Est-ce que l'inspecteur qui viendra ne va pas critiquer mes choix par rapport au programme? Je pense que les enseignants sont bien plus près de cela, à raison, que de cette préoccupation aussi. Je vous remercie.